Allez, on va commencer Bezrat Hashem, notre premier cours sur le chapitre 5 de Char Aïchoud Vaemouna. Donc Char Aïchoud Vaemouna, nous sommes à la page 56. Il y a un long commentaire du Rabbi ici pour ceux qui veulent le lire. C'est pas 56 en vérité, c'est un peu plus. D'accord. Ceux qui veulent le lire, j'ai dit une partie de ce commentaire dans le cours la semaine dernière. Il y aura une partie de ce commentaire aussi qu'on dira probablement aujourd'hui. C'est un commentaire qui est très profond, qui sort du cadre de ce cours, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait un long développement pour l'expliquer. Ok. Où on en est? Dans les cours précédents, on a expliqué que finalement, lorsque Akadosh Baruch Hu crée le monde, il fait appel à deux attributs qui n'en sont qu'un seul. Un attribut qui s'appelle la Gvura, la rigueur, et un attribut qui s'appelle Chesed, qui est la bonté. Et on a expliqué qu'en vérité, la bonté et la rigueur sont les deux éléments d'un même tout. La semaine dernière, on a fait tout un cours dessus, on a expliqué que Or et Keli, c'est l'un, le Chesed, c'est la lumière, l'énergie, et le deuxième, c'est Keli, c'est le réceptacle. En d'autres termes, ce qu'on veut expliquer, et c'est une idée qu'on va développer encore beaucoup plus longuement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas deux dieux ici. Il n'y a pas un bon dieu et un dieu restrictif. C'est le même dieu qui veut donner et qui veut que donner, mais que pour pouvoir te donner comme il faut, il a besoin de se restreindre pour que tu puisses recevoir comme il faut. Ok ? Maintenant, concrètement, nous autres, les terriens, c'est-à-dire que nous autres qui sommes en bas, c'est vrai qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, au fond, il est bon, qu'il veut tout nous donner. Mais dans les faits, nous, on ne voit pas Hachem. On ne voit que des limitations. Alors, vous allez voir qu'avec ce qu'on va expliquer maintenant, on va expliquer un midrash très connu que beaucoup de gens comprennent mal. D'accord ? Si je vous pose la question, d'après vous, est-ce qu'il y a eu d'autres mondes avant notre monde ?
Oui.
C'est possible, c'est pas possible. Oh, on s'en fout.
Non, il a essayé plusieurs constructions okay. Avant de créer le monde.
Oui.
Donc,
jusqu'à Abraham,
voilà. Je vous pose une question simple. D'accord ? Ça veut dire, est-ce que Dieu a créé d'autres mondes avant ?
On est là pour réparer les mondes précédents.
Moi, je sais pas. Moi, j'ouvre Bereshit. C'est écrit Bereshit bara Elokim Hashamayim v'Haaretz. Au commencement. Pour moi, en français, le mot commencement, c'est commencement.
C'est tout. Il n'y a pas d'autre.
Maintenant, c'est pas commencement de ce monde, c'est pas commencement de l'autre monde, c'est pas commencement de ma grand-mère, c'est commencement.
Mais
ah, j'ai rien contre personne.
Mais... Effectivement, mais ça peut être le commencement.
Alors, attendez. Non, ça marche pas. Dans ce cas-là, c'est pas le commencement.
Là, il y a un début.
Chez Benita. Vous allez faire la course. C'est quand le commencement de votre vie? Il y a combien d'années? Ah, il ne va pas nous dire son âge.
Ouais, je peux pas.
Vous comprenez? Vous n'allez pas me dire le commencement de ma 50e année, ma 60e année. J'ai dit le commencement. C'est la même chose. Non. Alors, en fait, qu'est-ce qui déstabilise pas mal le monde?
Notre vie commence pas à la naissance.
Ce qui déstabilise pas mal le monde, c'est que il y a un midrash qui nous parle, qui nous dit la chose suivante.
Un petit peu les choses.
Qui nous dit, on va lire ensemble ce midrash. Donc, je suis à la page 63. Veiné alze amrou chazal. Sur ça, les Chachamim ont dit, écoutez bien ce midrash qui est parfois mal compris. Batechila, Allah me marchava livro à taolam et midat adin. Au début, initialement, Dieu avait dans sa pensée, voulait créer le monde avec midat adin, avec l'attribut de la justice. Ok? Ra'a she'en avala mitkayem, il vit que le monde ne subsisterait pas. Alors, shitef bo midat rachamim. Il a associé la mida de la miséricorde. Qu'est-ce que vous comprenez de ce midrash? C'est un midrash très connu, ça. C'est-à-dire que Dieu a fait des essais. Il a fait des essais, ça n'a pas marché. C'est quoi ça? Dieu, il travaille dans. Dieu, c'est de la recherche et développement, tu vois.
Dans la pensée.
Il a essayé, il dit, ah bah tiens, ça marche pas. Bah tiens, essaye de rajouter un ingrédient. Là, tu crois qu'on croque Dieu dans un labo, tu vois. Il y a, Eureka, ça on a trouvé la formule.
C'est marqué dans la pensée.
Hein? Alors évidemment, même dans la pensée, c'est quoi cette phrase qui te dit Dieu voulait créer le monde comme ça, mais il a vu que ça allait pas tenir, alors il a associé ça. Mais je comprends pas. Si ça allait pas tenir, il savait que ça allait pas tenir.
Bien sûr, il n'a pas pensé.
Il n'a pas besoin d'expérimenter pour savoir si ça allait pas tenir.
Dans la pensée.
Donc, en d'autres termes, ce qui me dérange cette idée, c'est la chose suivante, c'est que moi j'ai besoin de faire la recherche et le développement parce que je ne connais pas le résultat de chaque chose. Donc je vais essayer, des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Et quand ça marche pas, je comprends que je dois réessayer autre chose. Mais Hachem connaît directement la bonne formule. Donc celui qui connaît la bonne formule, il ne va pas volontairement essayer des formules erronées. Exactement. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu aurait-il créé d'autres mondes avant notre monde ? Notre monde apparemment mal formé, mal né. Pourquoi ? Pourquoi il a fait ça, Kadosh Baruch Hu ? Et en plus, ce qui nous dérange encore plus, ce midrash-là, qui te dit, c'est même pas qu'il a créé un monde. C'est qu'au début, Dieu y pensait, et après il n'a pas fait. Ça veut dire quoi ? Alors en fait, la clé de la réponse est ce qu'on a expliqué dans le cours de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours de la semaine dernière ? Dans le cours de la semaine dernière, on a expliqué que, en vérité, tout ça, c'est le même moteur. Il n'y a pas deux moteurs différents. C'est pas, il n'y a pas un moteur de bonté et un moteur de rigueur. C'est le même moteur qui, parfois, pour ton bien, va se réduire. Mais c'est le même moteur. Alors avec ça, on va comprendre qu'en vérité, c'est pas que Dieu a fait une erreur. C'est pas que, au début, Dieu a fait quelque chose, étape 1, après ça marchait pas, il a dit bon, on va faire autre chose. Non. En vérité, Baterila, on t'annonce le programme d'Hachem. Et que dans son programme, au début, il voulait faire ça. Et il a fait ça parce qu'il fallait faire comme ça. Mais après, concrètement, il a dû faire des ajustements. Je vais expliquer ce que je vais dire. Je vais donner un exemple très simple pour expliquer. Imaginez, par exemple, que vous êtes rentré dans un magasin qui vend des cadeaux. Vous voulez acheter un cadeau à votre enfant. Quelle était votre intention ? De lui acheter un cadeau. Alors tu rentres à la maison et tu vois que la journée de l'enfant, elle n'était pas bien. Elle était même très mauvaise. Et toi, t'as le cadeau dans ta sacoche. Qu'est-ce que tu fais ?
Tu repousses.
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas peut-être utiliser de la rigueur. Tu vas dire, bon, tu sais, en vérité, je ne vais pas te le donner, je ne vais pas te le donner, etc. Tu vas peut-être hausser le ton. Et tu vas lui dire, dorénavant, si tu veux recevoir ce cadeau, il faut faire ça et ça et ça. Non, j'ai une question à te poser. Initialement, quelle était ton intention ?
De lui donner le cadeau.
Et à la fin, au final, quelle est ton intention ? Toujours de lui donner le cadeau. Seulement, pour arriver à lui donner le cadeau, des fois, il y a des choses qui prennent du temps, qui passent par plusieurs étapes. C'est comme ça. De la même façon avec le Kadosh Baruch Hu. De base, le Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut lui donner un cadeau. Il veut lui donner le monde. Il veut s'occuper de nous. Seulement, le Kadosh Baruch Hu, il sait très bien d'emblée que cette première phase ne suffit pas. Et qu'il faudra associer de la rigueur, et qu'après il faudra associer de la miséricorde, il faudra associer d'autres paramètres. Mais ça, c'était prévu dès le départ par le Kadosh Baruch Hu. C'est pas un raté. Vous comprenez que là, ma réponse, c'est pas ma réponse, c'est la réponse du Tania. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu, il a essayé, ça a pas marché, il dit bon, alors on va rajouter une composante, allez bon, donne-leur la miséricorde. Pas du tout. C'est que dès le départ, Dieu avait prévu de commencer par la bonté, après passer par la rigueur, et après de relever tout ça avec la miséricorde. C'était prévu dans le plan de départ. Donc, le mot Baterila, hein, on l'a mal traduit ici. Parce que le problème, c'est qu'en hébreu, Baterila, c'est difficile à traduire. Comment on traduit Baterila ? Baterila, ça veut dire au commencement, ou ça veut dire au début, ou ça veut dire la première étape. Donc, qu'est-ce que tu veux dire Baterila ? Est-ce que tu veux me dire que d'abord j'ai essayé ça, après ça n'a pas marché, je passe l'éponge et je recommence toute l'ardoise ? Ou bien non ? C'est un vrai développement. Et dans un développement, je fais d'abord un développement, après je lève l'ardoise, après hop, il y a un deuxième développement qui est la suite du premier développement. Que si tu le vois séparément, il a l'air de contredire l'équation qu'il y a dans la première ardoise, mais en vérité, il le complète, il continue. C'est ça le Baterila. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait d'erreur. Il n'a jamais fait d'erreur. Il n'a jamais fait de raté. Il n'y a pas de raté chez Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très important parce que des fois, on entend des gens qui parlent, des fois, des gens qui veulent bien faire. Hein. Mais c'est, à mon avis, c'est une erreur fondamentale. De dire que Dieu a créé un monde qui ne tenait pas et que c'est comme si qu'il a fait une erreur, tu vois. Ça tenait pas. Pourquoi ça tenait pas ? À cause de qui ça tenait pas ? Ou pourquoi ça tenait pas ? Hein ? Qu'est-ce qu'on pense ?
C'est-à-dire que avec la rigueur, le monde il tenait pas.
Je comprends, mais ça veut dire que Dieu ne savait pas ça.
Bah écoute, a priori, comme tu as dit,
apparemment, il savait pas.
Puisque... C'est n'importe quoi de.
Là, tu vois, on a l'impression quand tu lis un midrash comme ça, t'as l'impression, t'avais un papa, il était trop gentil, il dit bon, ça marche pas. Après, t'as un gros, il dit ça marche pas non plus. Il dit bon, alors la miséricorde, ça va marcher. Ah, d'accord. J'ai trouvé la formule, Eureka. Mais non, ça, tu parles d'Hachem, là. Tu parles d'Hachem.
Enfin, il aurait pu faire dès le départ quelque chose de cohérent.
Eh ben non, justement. Justement, c'est exactement ce qu'on vient de te dire. Parce que. De base, Hachem veut tout donner. Et il veut pas enlever ça. Parce que de base, il veut tout donner. C'est son intention. Et il est rentré dans le magasin de cadeaux pour acheter un cadeau à son fils. Il n'est pas rentré dans le magasin de cadeaux pour que son fils ait des meilleures notes. Il est rentré dans le magasin de cadeaux pour que son fils, pour acheter un cadeau à son fils. Et il veut pas enlever ça, Hachem. Hachem dit, si je vais commencer à dire que j'oublie le chesed, et que maintenant je suis là pour leur donner, mais je vais devoir condenser, je vais devoir réduire, je vais devoir adapter, j'ai oublié mon intention première. Mon intention première, c'est le donner. Et je l'enlèverai jamais. C'est pour ça qu'on commence par chesed. Seulement, comme je sais que le chesed tout seul ne suffit pas, donc moi-même, je vais brider mon chesed dans le cadre de mon plan. Mais comme je sais que d'un autre côté, quand je bride le chesed, il ne reste plus rien, alors je vais relever tout ça par la miséricorde. Donc, c'est trois étapes d'un même tout. Bonté, rigueur, miséricorde. Et ça, la vérité, c'est que nous, on n'est pas comme Akadosh Baruch Hu, mais on peut essayer d'appliquer un peu ça dans notre vie. Vous savez, ça veut dire, des fois, dans la vie, on est un petit peu extrémiste. C'est-à-dire que d'abord, tu essayes à fond une approche, après tu vois que ça ne marche pas, tu contre-braques, et après tu dis on va aller au milieu. Mais en fait, l'approche de Morazaket, c'est qu'il te dit, tu n'es pas obligé d'être extrémiste. Dans ta tête, dès le départ, tu peux prévoir, c'est quelque chose que tu prévois, c'est pas de la manipulation, mais tu prévois que on va faire comme ça, après on va faire comme ça, et après on va aller au milieu. Et c'est, ça fait partie de mon plan, tout ça. C'est pas un raté. Ça fait partie de mon plan. Chesed, Gvura, Tiferet. Il y a les trois. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, on a gardé les trois patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. On dit toujours qu'Abraham, c'est la bonté extrême, Yitzhak, c'est la rigueur extrême, et Yaakov, c'est l'harmonie. Alors, je suis maintenant que tu connais la bonne formule. Supprime Abraham et Yitzhak. Enfin, je le supprime pas, mais j'ai pas besoin d'eux, quoi. J'ai pas besoin de leur message. Non, je le supprime pas. Parce qu'encore une fois, ce sont trois étapes en même temps. On va développer ça longuement, cette idée. Ok?
Mais pourquoi quand il a dit, par exemple, il a dit, il a créé le premier jour et il dit, il a vu que c'était bien, et voilà, il savait pas qu'il serait bien le premier jour, que c'est joli, que c'est bien. Il dit, il a vu qu'il c'était bien, je sais pas comment il dit exactement, enfin ça veut dire ça, il a créé le premier jour, il a vu que c'était bien, alors il a créé, il a appelé ça Laïla, il a appelé ça Yom. Il savait pas que ça serait bien.
Et comment il a vu Dieu?
Comment ça
il a des yeux?
Non, mais je sais pas, dans le texte il dit.
Moi je vous pose la question.
Eh ben c'est lui qui dit ça.
Non mais d'accord, vous poutez en touche là. Comment il a vu?
Comment il a vu
la lumière, Dieu? Il a des yeux?
C'est lui la lumière.
Ben alors, comment il a parlé? Il a une bouche?
Ben
voilà. Je pousse votre question.
Non, mais d'accord. Mais alors, quelquefois dans certains textes, il a de la bouche,
il a de la tête. Dans la Torah, il y a une forme, pas des euphémismes, mais dans la Torah, il y a des mots comme ça qui sont adaptés au langage humain. Comme on te dit, il a vu que la lumière, c'était bien.
Alors, quand on dit, il a parlé à Moshe Rabbeinu, alors bon, il a parlé à Abraham, il a parlé à...
Comment il a parlé? C'est un rêve ou il a parlé comme je vous parle?
D'après les textes, c'est comme ça.
Quelle voix il a, Dieu? Quand, il a une voix rock, il a une voix aiguë, il a une voix, comment
on l'a écouté à la télé.
Là, c'est une question sérieuse que je pose. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, c'est que c'est une notion qu'on ne peut pas comprendre en sens littéral. Il faut dépasser le sens littéral.
C'est sûr que c'est compliqué. Parce
bon.
Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. On est dans le
fond de la matière.
Il y a eu le
mot d'avant,
oui. Il y a eu une jura, il y a eu. Il a été cassé d'ailleurs, cet âge.
Bien sûr, mais ça fait partie du plan. C'est pas un raté.
Oui, mais c'est un réel.
Oui, c'est bien sûr c'est un réel, mais c'est pas un raté. C'est un processus qui prend du temps, qui est passé par plusieurs étapes, mais c'est un processus. C'est comme un bébé. Un bébé qui va naître. On passe par plusieurs étapes. Maintenant, tu sais très bien que l'étape que tout le monde attend, c'est la 9e, c'est l'étape du 9e mois où tout le bébé va sortir du ventre. C'est bien sûr, c'est l'étape que tout le monde attend. Mais le bébé, il prend du temps. Il y a des étapes. Et toutes les étapes sont prévues dans le programme. Bezrat Hashem.
Avec toi, on a mis déjà pour l'étude.
Bon.
C'est pas pareil.
Alors, Rabotai, on va continuer un petit peu parce que là, vous allez voir, il va nous expliquer un petit peu comment Akadosh Baruch Hu, il a trouvé l'équation. Parce que on a un vrai problème. Ça va, Serge?
Oui, ça va.
On a un vrai problème ici. D'accord? Écoutez bien mon problème. D'un côté, Dieu est bon. Et il veut tout donner. Mais d'un autre côté, il ne peut pas tout donner. Parce que s'il donne tout, c'est contre-productif. Donc qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va devoir se condenser, se restreindre, etc., au point que tu ne le vois plus. Maintenant, Hachem, il est un peu embêté, ici, a priori. Parce qu'il se dit, concrètement, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils vont voir de moi?
Rien.
Ils vont rien voir. C'est-à-dire, ça veut dire, je ne sais pas comment t'expliquer, je vais te donner un exemple. Tu vas raconter à ton fils, tu es parti au magasin pour l'acheter le cadeau, etc. Maintenant, la façon comment lui va percevoir, c'est qu'il va pas voir ça comme un cadeau, il va voir ça comme une paye, il va voir ça, je sais pas, il me suis pris la tête pendant un an pour avoir ce cadeau. Mais on va lui expliquer que c'est pour son bien, etc. Il a pas vu ça, lui. Donc Hachem est très embêté. Il dit, comment je veux faire? Moi, j'ai envie de donner, je suis bon, j'ai envie de tout donner. Mais d'un autre côté, je sais que je vais tellement me restreindre, je vais tellement me comprimer, que, au final, ils me verront plus. Ils me voient plus en bas. Donc s'ils me voient plus, ils vont pas comprendre ma bonté. Alors, il va expliquer le Morazaken. C'est là qu'arrive la troisième étape du plan, qu'on n'a pas encore développée. Dans le chapitre précédent, on a développé les deux premières étapes, la bonté et la rigueur. Là, on va développer la rachamim, la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Hachem va mettre, il va rajouter une composante dans notre monde pour nous permettre de le voir. Même en bas. C'est quoi cette composante? C'est les miracles. Pourquoi Hachem fait des miracles sur terre?
On ne voit pas les miracles.
Ah si? Je parle des miracles, on voit. Parce que, on va réfléchir ensemble un peu. C'est quoi un miracle?
C'est quelque chose qui est surnaturel.
Très bien, mais c'est quoi la nature?
La nature, c'est ce qui finalement se fait de manière.
La nature n'est-elle pas un miracle?
C'est un miracle. Oui,
donc, en quoi un miracle est un miracle?
Non,
alors
mais pour d'autres, non. La nature, c'est pas un miracle, c'est une circonstance. Non, mais
nous qui connaissons la vérité, la nature est un miracle ou pas?
Oui.
Très bien. Donc, pourquoi un miracle est un miracle dans ce cas-là? Qu'est-ce qui fait qu'un miracle est appelé miracle?
C'est la nature.
Parce que, c'est expliqué, c'est très simple. Il y a une seule chose qui change. Parce qu'en vérité, la nature est un miracle. Il y a une seule chose qui change. C'est que dans la nature, le miracle est caché.
Oui.
Donc c'est la rigueur qui a pris le contrôle et qui a complètement caché le miracle. Alors que quand tu as un miracle, ce que moi j'appelle un miracle, alors qu'en vérité tout est un miracle, mais ce que moi j'appelle un miracle, qu'est-ce qui va se passer? On va plus voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, c'est une composante très importante qu'Hachem rajoute. C'est pas juste, le miracle n'est pas venu dans la Torah que pour nous sauver en cas de problème. Très important à comprendre ça. Le miracle est venu pour te montrer la présence d'Hachem, pour pas que tu crois que Hachem n'est pas là. Pour Hachem veut que tu le vois. Je vais donner plusieurs exemples. Regarde. Prenez par exemple la sortie d'Égypte. Combien de miracles y a eu la sortie d'Égypte? Combien de plaies?
10
plaies. Maintenant, 9 plaies n'ont pas marché. Parce que c'est quoi l'objectif de la plaie?
C'est
qu'on sort d'Égypte. Donc si c'est pas sorti, c'est que ça n'a pas marché. Mm-hmm. Donc ça veut dire, encore une fois, on va revenir à la même question, est-ce que Dieu s'est planté?
Non.
Bah si. Parce que il a essayé 9 fois, ça n'a pas marché, la 10e était la bonne.
Il fallait qu'il prenne 9 coups.
Dieu savait très bien que la 10e... Alors, de deux choses l'une, ou Dieu aurait pu décider que le premier coup aurait été fatal et il aurait dit oui, ou Dieu aurait décidé que directement on voyait le 10e coup et c'est bon. C'est le bon, quoi. Directement, on va le promener. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Les gens ne savent pas ça. C'est ma mâche, mais c'est écrit dans un passage qui dit ça. Tout l'objectif des plaies, c'était pas pour les Égyptiens.
Ils voulaient nous donner
l'enseignement. Ils voulaient donner l'enseignement à nous. Ils voulaient nous montrer sa présence. Nous, les bénis Israël. Parce que les Égyptiens, pour régler leur problème, Dieu peut régler leur problème en une crise cardiaque. Dieu, il n'a pas besoin de faire une plaie qui dure 3 semaines de prévention et 1 semaine de plaie. Et vas-y, s'il te plaît. Hachem, à 15 jours, il peut régler les choses en une fraction de seconde. C'est rien. Lorsqu'à 15 jours, il fait un miracle, l'eau qui se transforme en sang, et les sauterelles, les grenouilles, etc. Ce miracle, il n'est pas seulement pour frapper les Égyptiens. Il est d'abord et avant tout pour montrer, c'est Hachem qui le dit clairement dans la paracha Vaera, pour montrer au Bnei Israël ma puissance. Il dit, vous verrez ma puissance. Ça veut dire que le rôle d'un miracle dans la Torah, c'est pour te montrer, à Kadosh Baruch Hu veut que même dans le monde ici-bas, tu puisses le voir de temps en temps. Donc, c'est la raison pour laquelle à Kadosh Baruch Hu fait plusieurs choses. Daïnou. Idgalut, Otot, Aotot, je tourne la page. C'est quoi la miséricorde? Deinu. Idgalut et le coup d'aller des tzadikim. C'est la divinité qui se révèle par les tzadikim. Pourquoi Dieu a créé des tzadikim? Pourquoi Dieu a fait qu'il y ait des gens? Voilà, je vais chez le rabbi cette semaine si Dieu veut. D'accord? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait qu'il y ait des tzadikim? Qu'il y a des gens qui capent Dieu plus que d'autres? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait des miracles? Pourquoi Dieu n'a pas fait un monde dans lequel il n'y a pas de miracle, tu veux recevoir, tu mérites, tu mérites pas, tu reçois pas, il n'y a pas de tzadikim, tout le monde est le deuxième enseigne. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on puisse le voir. Maintenant, d'un autre côté, il aurait aimé que tout le monde soit tzadikim et il aurait aimé qu'il y ait des miracles pour tout le monde. Il aurait aimé. Mais s'il fait un monde comme ça, dans ce cas-là, c'est contre-productif, il n'y a plus d'effort. Donc il dit, je peux pas faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est que dans ce monde occulté dans lequel vous vous trouvez, dans ce monde dans lequel on ne me voit pas, de temps à autre, vous verrez des miracles. Vous verrez des tzadikim qui, eux, me verront clairement et qui pourront vous faire vivre un petit peu ce que vous devez vivre. Et aussi, vous verrez des miracles. Otot ou moftim? Otot, c'est des signes et moftim, c'est des miracles. C'est quoi la différence entre un signe et un miracle? Un signe, c'est lorsque tu as, par exemple, quelque chose, lorsque tu as un phénomène qui se produit, qui en soi n'est pas un miracle, mais au moment dans lequel il est arrivé, c'est un message qui est flagrant. Alors justement, ça c'est un signe. On dit, ah c'est un signe, pas possible. C'est-à-dire juste on parlait de ça, par exemple, tu parlais juste de quelque chose et tout d'un coup, pac, tu reçois une notification qui parle. C'est pas possible, c'est un signe ça. Tout d'un coup, quelqu'un il t'appelle, il dit oui, justement, je t'aime. Il dit, mais d'où il sait? C'est un signe, en soi, c'est pas un miracle. Mais c'est un signe d'Hachem pour te montrer que Hachem est là. Ça se passe pas tout seul ici. il y a quelque chose qui fait tourner. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Ça arrive très souvent dans la vie, les hototes. Les hototes. C'est-à-dire quand il faut être un peu attentif, mais tu vois, ça arrive très souvent dans la vie. C'est-à-dire tu te concentres sur un projet, etc. Et comme par hasard, quand il va t'appeler, il va dire, ah, Mandy, j'ai pensé à toi. Tu sais, j'ai pensé à ça. Et comme par hasard, la chose sur laquelle j'ai pensé. Tu mets d'où il sort celui-là? Il m'a pas appelé, ça fait 10 ans. D'où il est sorti? C'est Hachem qui l'a envoyé. Donc ça, c'est les signes. Hototes. Après, tu as aussi Moftim. Comme Moftim. Moftim, c'est des miracles. Des merveilles. Bah, c'est, voilà, c'est comme l'eau qui se transforme en sang. C'est bon, c'est pas possible, ça. Ça marche pas, c'est pas possible. L'eau peut pas se transformer en sang. C'est pas un concours de circonstances. Ça, c'est quelque chose qui est un mofet. Hachem utilise ça aussi. D'accord? On voit souvent, même de nos jours, parce qu'il parle des tzadikim, c'est important. Il te dit, ne crois pas que les miracles ne se résument seulement au chumash. Que quand tu vois les miracles, tu vois ce qu'il raconte dans le chumash, dans la Gemara, et ça, c'est les miracles. Dans chaque génération, il y a des miracles. Pourquoi? Parce que c'est la façon par laquelle Akadosh Baruch Hu se révèle à nous, de temps à autre. Dans chaque génération, dans toutes les générations. Par qui passent les miracles? Par les tzadikim. C'est eux qui, les tzadikim font transiter les miracles. Maintenant, un miracle, voilà, par exemple, tu dis, par exemple, quelqu'un, on voit des fois dans la vidéo de Motsai Shabbat, samedi soir, voilà, tu vois, quelqu'un, par exemple, qui n'avait pas d'enfant pendant 10 ans, peut-être qu'il a un enfant. Et le docteur dit, madame, il n'y a rien dans la matrice, il ne peut pas avoir d'enfant. Il y a un enfant. Comment c'est possible? Médicalement, c'est impossible. Pas possible. C'est pas que peut-être une chance sur 1 million, c'est pas possible. Et pourtant, tu vois que tout va bien. Il y a des cas comme ça, des gens qui ont guéri, etc., plein d'histoires. Puis Rabbi, mais c'est d'autres tzadikim. C'est un miracle. Alors, t'es un peu perturbé par ce miracle. Mais pourquoi il y a un miracle? À quoi il sert ce miracle? Il y a deux choses l'une. Ou tu vas me dire que Hachem, il a décidé que cette personne ne peut pas tomber enceinte, dans ce cas-là, elle sera pas enceinte. Quel est le rôle du tzadik? Le tzadik, il va être plus intelligent qu'un Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit non, toi, tu vas dire oui. C'est quoi ce délire?
Qu'est-ce qui se passe ici?
Seulement, en vérité, on comprend qu'à Kadosh Baruch Hu, d'un côté, il a dû se contracter. Et comme il s'est contracté, alors automatiquement, eh ben, malheureusement, on le voit pas ici-bas. Et des fois, on voit même des choses qui pourraient même nous faire croire qu'il n'est pas là, peut-être, d'accord? Et de temps à autre, Hachem, il se révèle à nous par les tzadikim. C'est un phénomène qu'Hachem a mis en place. Le phénomène qui s'appelle les tzadikim, les otot ou moftim, les miracles et les merveilles. Et c'est pour ça que, maintenant on comprend ce que dit le Midrash. Rappelez-vous le Midrash qu'on a dit au début du cours. Yves, t'es avec nous?
Oui, oui.
Qu'est-ce que dit le Midrash? Au début, Dieu, d'accord, en fait, il y a ce qui est avant ce Midrash. Au début, Dieu voulait donner. Mais il est obligé de se restreindre, donc il voulait créer le monde par la mida du din. La mida du din, c'est la mida de la rigueur. Mais il y a un problème. C'est que Ra'a She'en Ha'olam Mitkayem, Hachem a vu que s'il va créer le monde qu'avec la rigueur, il ne sera pas du tout visible ici-bas, il sera complètement occulté, le monde ne peut pas tenir. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre un être humain qu'il n'a jamais vu Dieu, ni lui, ni son père, ni sa mère, ni sa grand-mère, ni son arrière-grand-mère, ni personne ne lui a raconté Dieu. Et tu lui dis, tu sais, c'est écrit dans les livres qu'il y a Dieu. L'être humain va dire, qu'est-ce que tu me racontes? En Ha'olam Mitkayem, le monde ne peut pas tenir comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il n'a pas changé de plan. Il a associé Midat HaRachamim. Il a associé la tribu de la miséricorde. C'est quoi la tribu de la miséricorde? C'est les miracles. Hachem a dit, je ne vais pas changer mon plan. Mon plan reste le même. C'est de la bonté que j'ai contractée et ce sera comme ça. Mais comme je suis conscient que le monde ne peut pas tenir comme ça, parce qu'on on peut pas ne pas se montrer, ne rien montrer du tout et attendre que l'autre fasse des choses pour toi. C'est pas possible. C'est-à-dire, tu peux pas attendre des employés qui vont travailler toute leur vie dans une boîte alors qu'ils n'ont jamais vu le patron et qui savent même pas c'est qui le patron et qui savent même pas s'il existe. À un moment, il y a un employé qui va dire, attends, mais c'est qui le patron ici? C'est qui? Il est où le patron? On nous a dit qu'il y a un patron qui vérifie ce qu'on fait et que c'est lui qui envoie. Mais il est où? C'est qui ce patron? À un moment, ils vont dire, alors ils vont croire pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Après, que tu veux? Leurs enfants, leurs petits-enfants, ils vont continuer à dire, il y a un patron, on l'a jamais vu, mais il y a un patron. Il y en a qui va dire, mais attendez, mais arrêtez ce délire, c'est moi le patron aussi. C'est quoi cette histoire? C'est pour ça qu'Hachem, de temps en temps, il nous fait des miracles. Mais, les miracles, c'est pas tout le temps. Et les miracles, c'est pas l'objectif. Et donc, il dit, ah, pourquoi tu me fais un miracle? Oh, ici, j'ai terri, ça, le miracle, etc. Pourquoi? Mais ce que tu comprends pas, c'est que le miracle n'est pas un objectif. Parce que, Hachem, le miracle, il peut en faire autant qu'il veut, ça lui coûte rien de faire un miracle. Mais c'est pour ton bien qu'il n'en fait pas. Parce que si tu fais un miracle, t'as plus de mérite. Tu mérites quoi, ici? Donc Hachem va faire des miracles, mais ces miracles vont être au compte-gouttes. Pas qu'il ne veut pas les donner, mais ils vont venir au moment où ils doivent venir. Otot, Moftim, Shabbat Torah, comme on l'a dit par les Tzadikim, et par les signes et les miracles qu'il y a dans la Torah. Alors, on va aller un peu plus loin pour expliquer quelle est la force du miracle. Et pourquoi, comment on va résoudre cette équation. D'un côté, Dieu veut se dévoiler, mais d'un autre côté, il doit se contracter. Très compliqué, ça. Tu sais, c'est comme... ça me rappelle des fois des profs. D'accord ? Alors, un prof, il a toujours... D'un côté, un prof, il a envie d'être sympa avec ses élèves. N'est-ce pas ? Les profs, je parle de profs d'école. Il a envie d'être sympa avec ses élèves. Mais d'un autre côté, il sait que s'il est trop sympa, il va se marcher dessus.
Ça déborde.
Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il y en a qui vont dans les extrêmes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont être soit trop gentils, soit ils vont être trop rigoureux. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que des fois, tu vas voir un prof qui en vérité qui est bon, qui est gentil, mais comme il est maintenant en phase rigoureuse, donc il va faire semblant de s'énerver, mais tout le monde sait qu'il s'énerve pas. Donc il esquisse son crédit. C'est qu'à un moment il passe une phase par laquelle il va lever le ton, il va hausser la voix, il va dire attendez, ça suffit, etc. Mais il va esquisser un tout petit sourire qui va montrer qu'en vérité, je suis rigoureux avec vous, mais en vérité, je suis bon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations dans la vie comme ça où tu dois être rigoureux parce que tu dois être rigoureux, mais que au fond tu montres que je suis pas rigoureux. C'est un peu ce que Hachem fait avec les miracles. C'est-à-dire que dans les faits il est rigoureux parce qu'il s'est restreint, il s'est caché complètement, et ça c'est de la rigueur. Il n'y a pas de question dessus, c'est de la rigueur. Mais d'un autre côté, par le biais des miracles, de temps en temps, il te fait un clin d'œil pour te dire je t'ai pas oublié et je t'aime et tout ce que je fais c'est pour ton bien. Maintenant, ça ne veut pas dire que le miracle me permet de comprendre. Je ne comprends pas avec le miracle. Le miracle, c'est un phénomène qui me dépasse aussi. Mais au moins, ça me rassure. C'est pour ça que dans tout notre système, le miracle est très présent. Vous savez qu'il y a d'autres religions où on ne parle pas de miracle. Le miracle est tabou, le miracle est banni. D'autres religions, des gens croyants, dans lesquels ils te disent, nous, on ne veut pas parler de miracle. Parce qu'ils te disent, le miracle, c'est pas un phénomène normal, le miracle. C'est un phénomène paranormal, c'est pas un phénomène qui m'intéresse. Moi, je veux montrer comment, dans ma nature, j'arrive à vivre avec Hachem. L'approche du judaïsme, elle n'est pas comme ça. L'approche du judaïsme, elle est que justement, dans la vie, c'est vrai que la vie ne fonctionne pas sur les phénomènes paranormaux, ça c'est clair, il n'y a pas de question dessus. Mais d'un autre côté, il faut de temps en temps des miracles. Des miracles comme par-ci, par-là. Et c'est important. C'est important de les avoir. C'est pour ça qu'on dit que le rabbi, dans les dernières années, il a beaucoup parlé de l'importance de raconter à nos enfants, et de le raconter à nous-mêmes aussi, parce qu'on est tous des enfants, de raconter des histoires de miracles de tzadikim. Maintenant, c'est intéressant parce que on retrouve ça déjà dans les correspondances entre le rabbi et son beau-père. Chez les chassidim chabad, en général, on racontait pas les miracles. On dit, il y a une expression qui disait que les miracles traînaient sous la table et personne se baissait pour aller les ramasser. On disait, c'est-à-dire que le miracle,
il y en avait partout.
Et non, mais ça, on s'arrêtait même pas pour le regarder. On ne regarde pas le miracle. Et le rabbi, avant qu'il devienne officiellement rabbi, c'était encore dans les années 40, donc on a retrouvé une correspondance entre le rabbi et son beau-père, dans laquelle le rabbi dit, je n'arrive pas à me retenir de poser la question, comme ça il dit, donc je n'arriverai pas à me retenir de poser la question, comment se fait-il que chez Chabad, on ne parle pas des miracles ? Pourquoi on ne parle pas dans l'auto... Alors il dit, je sais qu'on m'a dit que... Non, je comprends, mais ça veut dire qu'on ne construit pas l'éducation autour des miracles. Et le rabbi, il dit à son beau-père, on n'a pas, moi j'ai pas vu, peut-être que ça existe, mais on n'a pas vu la réponse de son beau-père. Je ne sais pas qui s'est répondu. Mais le rabbi, il a posé cette question. Il a posé cette question, il comprend pas pourquoi chez Chabad, en tout cas à l'époque, en 1940, on ne parle pas des miracles. On n'en fait pas un plat. C'est un miracle, c'est insignifiant, on ne parle pas d'un miracle. Le rabbi, il dit, moi je pense que dans notre génération, une génération dans laquelle il y a tellement d'obstacles du Yitzhara, dès qu'il y a un miracle, il faut sauter dessus, il faut le raconter. Il faut en faire un plat. Et ça, on l'a vu plusieurs fois après chez le rabbi, dans les sirotes. Dans les sirotes, c'est-à-dire dans les années 50, 60, et surtout dans les dernières années. Dans les dernières années, le rabbi, chaque événement qui arrivait dans le monde, simplement un rassemblement à l'ONU, où il y a eu un détail qui s'est passé, qui est pour notre bien. Tac. Par exemple, si on pouvait entendre le rabbi parler maintenant, la semaine ddernière, avec le miracle qu'il y a eu en Israël, c'est un miracle extraordinaire qu'il y a eu en Israël.
La semaine dans la Sidra,
il y a un miracle. Non, mais là, je te parle de miracle, c'est même pas un miracle qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est un miracle de 200 ans.
Non, mais dans la Sidra, c'est des
trucs. Mais là, je te parle d'un miracle qui s'est passé sous nos yeux, qui était filmé, des miracles filmés. T'as des vidéos, t'as des photos, des miracles. Tu vois clairement la présence d'Akadosh Baruch Hu. Le plus athée, le plus incroyant, celui qui dit athée, c'est pas possible, c'est devant toi. Alors, des choses comme ça. Le rabbi, il sautait dessus. Il le prend, il t'en parle, il dit, on voit la main d'Hachem, etc. Parce que il faut apprécier ces moments.
Tu penses à quoi, aux bombes?
Hein, bien sûr. Miracle extraordinaire.
Il y a eu
400, je sais pas combien, 460. Mais c'est extraordinaire, on ne se rend même pas compte. Je sais pas si vous imaginez, 400. Nous, quand on entend les missiles, c'est pas des missiles de jeux électroniques. C'est des vrais missiles. Des missiles qui font la taille
missile,
de. Mais un missile, il fait tuer tout un immeuble.
Bien sûr,
c'est sérieux, c'est pas des blagues.
Ils sont équipés, bon.
D'accord.
Équipés.
Bien sûr qu'ils sont équipés.
Et ils ont ces trucs électroniques avec des.
Ouais, mais ils ont des faibles portées, non ?
Alors qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, je veux dire, quelle fait portée ? Ils vont jusqu'à Tel Aviv.
A priori, ils tombent avant.
Quoi ? Pas du tout. Comment ils tombent avant ?
Pas, là, t'as entendu tomber sur
ta vie. Bah, comment, pourquoi ça tombe pas
dire,
parce qu'il y a le dôme de fer. Maintenant, est-ce que tu sais pas, David? C'est que le dôme de fer, d'accord, le dôme de fer, comme par hasard, il est arrivé à 93% de réussite. Nous, il arrive à 93%. La guerre d'avant, il était à 80% de réussite.
C'est comment ils arrivent d'accord à acheter
maintenant, tu
mission.
Comprends maintenant, encore une fois, il y aura toujours un facteur. Tu pourras toujours dire, ah, c'est le dôme de fer qui a bien marché.
Tu
pourras dire, ah, c'est le coup de bol de l'automobiliste qui était là, qui a accéléré juste avant, et qu'une fraction de seconde avant, il serait plus là. D'accord? Comme par hasard. Tu veux dire, ah, c'est la chance de ceux qui sont sortis de la maison juste avant, parce qu'ils devaient faire une course pour aller aider quelqu'un. Ouais. Comme par hasard. Et ils étaient dans la pièce où le missile est tombé. Comment tu expliques ça? Tu peux toujours trouver des facteurs. Tu peux dire c'est le hasard, c'est la chance, etc. C'est un miracle. D'accord? C'est un vrai miracle.
Ça n'existe pas.
Hein? Ce sont des miracles. Et c'est important, quand il y a des miracles comme ça, de les chérir, de les raconter à nos enfants, de nous-mêmes, de se les raconter à nous-mêmes, et de comprendre, de dire, Hachem t'a montré sa main ici. C'est pas un hasard. Hachem, il n'a pas fait ça par hasard. D'accord? D'abord, Hachem, il aurait pu faire un miracle sans que tu le vois. Parce que toute la vie est des miracles. Hachem, il aurait pu faire que dans leur hangar qui est là-bas, je sais pas, il y a une explosion ou il y a un truc, que ça marche pas. Hachem peut faire plein de miracles. Pourquoi Hachem fait que le miracle soit devant mes yeux? Que, je sais pas si vous avez vu des vidéos qui tournent, d'accord? On se rend même pas compte, mais, c'est-à-dire que des fois, on part en simultané, il t'envoyait 20, 30 missiles. Et t'as 30 antimissiles qui partent, c'est-à-dire que quand tu vas dans le ciel, tu vas voir des dizaines de tapes, ça part dans tous les sens. Et toi, tu vois ça, et tu sais pas si tu dois pleurer ou tu dois rire.
C'est quoi le but d'Hachem pour...
C'est quand même, tu sais pas si tu dois pleurer, tu dis mais attends, c'est les missiles. Et ils sont, ces missiles ils sont pas là, c'est pas, on n'est pas le 14 juillet. Ces missiles ils sont là pour faire du mal. Et d'un autre côté tu dis mais regarde la puissance, regarde la main d'Akadajoro qui est là, qui nous aide. Il y a tellement d'histoires qu'on entend. Et vous savez que ces histoires de fois on les entend sur place, on les entend après. Parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille un peu là-bas dans les... Il dit que des fois il y a des miracles comme ça, par exemple des fois, hein, c'est, comment ça marche le dôme de fer? Il y a des gens qui sont devant des écrans. D'accord? Et il faut être très réactif. Parce que les ordinateurs, finalement, ils ne prennent pas la décision jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre, est-ce que tu envoies ou tu n'envoies pas? Il faut prendre une décision. Et tu as quelques secondes. Et des fois, hein, d'accord, des fois, c'est trop tard. Et maintenant, ils le disent clairement. Il y a des facteurs qui arrivent, qui sont inexplicables, comme par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu un comme ça. Tu as eu celui qui était aux commandes d'homme de fer, d'accord? Il a capté le message, je crois, 5-6 secondes trop tard. C'était trop tard. Le missile allait arriver. C'est trop tard. Parce que dans l'endroit où le missile arrivait, il n'y avait pas de lance-missile, donc tout était trop tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui, il était inquiet, lui, il était sûr, ça, il s'est tombé sur une maison, etc. Ça va tomber, c'est fini. Ça va tomber dans une zone habitée. Comme par hasard, il atterrit à la mer. Macara, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu c'est une folie. C'est un truc que lui-même, il te raconte. D'accord? Mais ça sort plus tard, ça. Qu'est-ce qu'il te raconte? Il te dit, comme par hasard, tout d'un coup, il y a eu un gros coup de vent. Vous savez, le coup de vent qu'il faut pour un missile se déplace? Et c'est énorme. Le coup de vent qui a dévié la trajectoire. Maintenant, une fois que la trajectoire est déviée,
ils sont en place le
d'accord
en place.
Non, pas les leurs. Non, ils sont pas encore là.
Ils sont en repli à ce missile.
Non, mais c'est une fois que c'est comme les machines sophistiquées.
Bon, ça, c'était pas encore. Ils sont pas encore arrivés à ça. Et t'inquiète pas, Dieu nous trouvera la solution pour ça aussi.
Le coup de vent,
il a dévié la trajectoire. Oui. Donc le missile a continué sa trajectoire, comme par hasard.
Maintenant,
c'est un coup de vent qui n'était pas prévu, que la météo, c'est ouais. Des trucs que tu comprends pas. Et tu vois clairement la main d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu peux toujours dire c'est le hasard, on a eu un coup de bol, on a eu de la chance. Non, Rachamim. Il faut se rappeler que ça, c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est gentil avec nous, il nous montre des miracles. Il nous montre des miracles.
Donc le but c'est quoi? Le fait de te montrer.
Le but c'est d'ouvrir. Le but c'est deux choses. Notre but à nous, d'abord, c'est de comprendre qu'on ne peut pas compter sur les miracles. Il ne faut pas compter sur les miracles. Pourquoi? Pour nous montrer qu'il est là. Pour ne pas qu'on croie qu'il n'est pas là. Pour ne pas qu'on croie qu'il s'est complètement caché et qu'il nous a oubliés. Et bien, débrouillez-vous dans votre zut, je ne sais pas vos affaires. Hachem ne veut pas qu'on pense ça. Parce que c'est vrai. S'il se cache, à l'avant, tu ne vois plus. Pour avoir l'impression, il m'a abandonné et il me dit, vas-y, sauf qu'il peut, débrouille-toi. Hachem te dit, non, je t'ai pas abandonné. Et pour te prouver que je t'ai pas abandonné, de temps en temps, je te fais des petits appels de phare comme ça. Je te fais des petits clins d'œil pour te dire, je suis là, t'inquiète pas, je gère.
Ah, oui, d'accord.
Mais je peux pas toujours te montrer que je suis là, parce que sinon c'est tout le temps le miracle et sinon t'as plus de mérite. Donc il faut que tu construises ton travail de toi-même. Mais de temps en temps, je te montre que je suis là. C'est extraordinaire. Il faut chérir ces moments-là. Il faut chérir, il faut les raconter, il faut les garder. Quand vous recevez une vidéo comme ça, vous la gardez dans votre téléphone. Vous la gardez dans votre téléphone. C'est un souvenir, ça. Quand des fois tu dis, qu'est-ce que tu regardes la vidéo? Encore une fois, tu regardes devant tes yeux. En plus, tout, on est dans un monde aujourd'hui où tout est filmé. Tout est filmé. Hein? Pas?
Je comprends pas, c'est comment est-ce que HM, il a mis en place un système pour qu'on ait besoin de miracles?
Non, ça c'est une autre question.
On peut nécessairement créer un monde où on n'a pas besoin de miracles, où tout va bien.
Ça c'est ma chère.
Ou c'est une musique.
Mais ça, on est en exil.
On n'a pas besoin de miracles, quoi.
Joseph, on est en exil.
C'est un monde où on aura besoin de miracles, on déstabilise d'un côté pour rééquilibrer avec le miracle.
Je vais jeter un pavé dans la mare.
C'est que je comprends pas.
Joseph, est-ce que vous savez quel est l'endroit au monde dans lequel je ressens le plus que je suis en exil?
Oh, ça
Est-ce que vous savez quel est le pays au monde dans lequel je ressens le plus que je suis en exil?
Le quoi, là?
Le pays dans le monde.
On ressent quoi?
Dans lequel je parle pour moi, dans lequel je ressens le plus que je suis en exil.
Le champ.
Quel est le pays, au monde dans lequel je ressens le plus que je suis en exil?
Je suis en exil.
Ah, je suis en exil.
La France.
Alors, en Israël.
Israël. Ah oui.
Parce qu'il y a tout.
Parce qu'en Israël, tu.
Parce que là, quand tu es en France, tu sais que. Tu sais que ta zone n'est pas là. Donc bon, tu dis, je suis là, je suis de passage. Pour un siècle, pour deux siècles, je sais pas combien de temps, mais je suis là, c'est tout. C'est comme ça. Mais quand tu vas en Israël, tu sais que c'est là-bas que ça doit se passer. Et tu sais comment ça devrait se passer. Et tu vois comment ça se passe.
Tu vois que ça s'améliore.
Et tu vois que ce qui se passe n'est pas du tout en corrélation avec ce qui est annoncé. Donc là, tu vois tout de suite que l'exil est flagrant. C'est-à-dire que même si on te dit oui, mais on a une autonomie, etc. Quelle autonomie? C'est rien par rapport à ce qui est prévu. C'est rien du tout. C'est des babioles. Donc là, tu comprends que tu es en exil. Et que c'est là-bas que tu comprends encore plus que tu es en exil. Alors je dis que jette un pavé dans la mare parce que il y en a qui vont dire non, c'est le début de la Géoula. L'un ne contredit pas l'autre.
Ouais, et un Israélien qui vient ici, il dit oula, c'est vous qui êtes en exil, comme il dit. Un Israélien qui vient ici, il dit oh, vous êtes en exil parce qu'il se sent pas.
Moi, j'ai pas de missiles partout qui me sautent autour. Hein.
Je sais.
C'est pas partie de ma vie, ça. Bah au Hachem. Mais au contraire, la terre d'Israël, c'est un endroit dans lequel iné lo yanum ve lo yishan shomer Israël. Hachem ne dort pas, il ne somnole pas, et on le voit clairement. C'est-à-dire que quand tu es en Israël, tu vois clairement la main d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont publié. C'était quand ils ont publié ça? Je crois que c'était juste après. Je crois que c'était entre Rosh Hashanah et Kippour. Ils ont publié le Shabak. Vous savez c'est quoi le Shabak? C'est le service d'enseignement israélien intérieur. Pas le Mossad c'est extérieur. Ça c'est le service intérieur. Ils ont publié que les 12 derniers mois, ils avaient arrêté. Je n'ai pas envie de vous dire un mauvais chiffre, mais c'était un chiffre énorme, énorme. Ils avaient arrêté. Je crois que c'était un truc comme 600 attentats qui étaient
déjoués,
qui étaient prévus, qui étaient déjà en cours, et ils les ont déjoués.
600.
Un chiffre énorme, je ne veux pas vous dire de bêtises. Soit
dans l'année, non?
En 12 mois.
Ah, c'est ça.
Ils ont fait un bilan, ils font un bilan chaque année maintenant. Parce que, vous savez pourquoi ils font le bilan? Parce que le problème, c'est qu'ils travaillent tellement bien, Baruch Hashem, que les gens leur disent, vous ne faites rien.
La force.
Les gens disent, vous ne faites rien. Alors on dit, ok. Donc maintenant, ça fait quelques années maintenant, tous les quelques mois, ils font un bilan. Ils disent voilà ce qu'on a. On peut pas vous dire comment, pourquoi, d'accord. De temps en temps, tu entends qu'il y a une unité qui a reçu une médaille. Quand tu entends qu'il y a une unité qui a reçu une médaille, ça veut dire que c'est passé des choses.
Pourquoi la médaille?
Pourquoi la médaille? Où est venue la médaille? Quand tu entends une unité qui a reçu deux médailles, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est des miracles extraordinaires. Et on se dit, mais je comprends pas. Ça veut dire que, imagine-toi, que t'as 600 voleurs qui voulaient rentrer chez toi, qui étaient équipés, qui avaient les outils, et qui ont commencé à défoncer ta porte, et 600 fois t'as réussi à ne pas les rentrer. 600 fois. En un an. Tu dis, attends, c'est pas possible.
Parce qu'ils ont beaucoup de renseignements.
Mais ben,
les Arabes, oui. Travaillent pour eux.
Oui, mais ça encore une fois, monsieur Benita.
C'est ça,
ça, c'est celui qui veut pas voir le miracle.
Ah oui. Ça, c'est celui qui veut pas.
Bien sûr, tu vas me dire, c'est vrai. Il y a des trucs, etc. Bon, on va continuer un petit peu. On a assez parlé sur Rachamim. Alors, veille-nous. C'est très important parce que, vous savez, le commentaire du Rabbi qui explique que dans ces quelques lignes qu'on vient de lire, se cachent des très grands messages. La notion de Rachamim, la miséricorde par les miracles. Ok. Maintenant, on va refermer la parenthèse. Veine. Alzé Amrou Bezoar. Allez, on y va. Page 64. Veiné. Or, Alzé Amrou Bezoar. Concernant cela, on dit dans le Zohar.
63.
Page 64. Veiné.
En bas.
Veiné Alzé Amrou Bezoar. Concernant cela, il est écrit dans le Zohar. Dit le Eila, qu'en haut, Bessitra Dikdoucheila. Dans le côté de la sainteté supérieure, it yemina veit smola. Il y a la droite et il y a la gauche. Da'inu chesed ugvura. C'est quoi la droite? C'est quoi la gauche? C'est la bonté et la rigueur. D'accord. Donc, le Zohar, il te présente les choses comme ça. Il te dit que, de la même façon qu'en bas, il y a la droite et la gauche, en haut aussi, il y a la droite et la gauche. La droite, c'est la bonté, la gauche, c'est la rigueur. Où il veut nous amener? Pirou, ça veut dire. Nechtehen en midot elokot. Et le coût. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux attributs, et l'attribut de la bonté, et l'attribut de la rigueur, sont les deux attributs divins. Les malam isichel anivraim vasagatam, ce qui transcende, qui dépasse l'intellect des êtres humains et ce qu'ils peuvent comprendre, des yu vegar moichad bolam atzilut, car dans le monde de Atzilut, Dieu et ce qui le contient, comme on va expliquer tout de suite, d'accord? Lui et ses attributs ne font qu'un. Bon, là, il faut qu'on explique un peu ce qu'il veut dire ici. Il ne faut pas qu'on se perde. Rappelez-vous le cours la semaine dernière. Or et...
La lumière.
Kelly. Or... Ah oui, non. Or et ET. Or et Kelly. La lumière et...
Le
récipient. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a expliqué ? Que le or et le Kelly, donc il y a la lumière et il y a ce qui contient la lumière. Maintenant, est-ce que le réceptacle qui contient la lumière... est différent de la lumière? Est-ce que ce sont deux entités distinctes? Si je prends par exemple de l'eau que je mets dans un verre, le récipient c'est du verre, l'eau c'est de l'eau, c'est pas la même chose. Mais dit le Zohar, chez Akadosh Baruch Hu, dans le Olam Atzilut, I ou Begarmo Ichad, c'est la même chose. Ça veut dire que la lumière et ce qui limite la lumière forment un seul élément. C'est un seul, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde d'Atzilut, même comprendre comment ça fonctionne, on ne peut pas comprendre. Parce qu'on aurait pu se dire, bon, l'énergie, je ne la comprends pas. Mais le Kelly qui contracte l'énergie, ça, je peux la comprendre. Ça, c'est facile, je peux comprendre. C'est la contraction. Tu dis non. Tu dis, sache que même la contraction de la lumière, tu ne comprends pas. Alors, tu vas me dire, alors, est-ce que peut-être il y a des Tzadikim qui comprennent ça? Le Olam Atzilut. Est-ce que ce qui se passe en haut, est-ce qu'au moins il y a des Tzadikim qui comprennent? Regardez ce qu'il va nous dire. Qui est le Tzadik dans l'histoire du monde qui a capté le plus ses Kadosh Baruch Hu? Moi, cher Abenou. Moshe Rabbeinu, on dit qu'il a une névoie, une prophétie, t'es capable de rester éveillé en chair, en os, et de parler avec Kadosh Baruch Hu. Même Moshe Rabbeinu. Ve'af asagat Moshe Rabbeinu. D'accord? Même la compréhension de Moshe Rabbeinu, je suis à la page 65 en haut, puis une voix à tôt, lo ita be'ola matzilut, et la idée de l'epshto ola mavriya. Même Moshe Rabbeinu, dans sa prophétie, il n'a jamais capté l'ola matzilut. On dit que Moshe Rabbeinu, sa neshama, elle vient de Hatzilut, mais au stade de Hatzilut, personne ne comprend rien. C'est quoi Hatzilut? Vous savez qu'il y a quatre sphères. Il y a Hatzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. C'est la première étape de la création. À cette étape-là, on ne comprend rien. Même Moshe Rabbeinu ne comprend rien. Et même Moshe Rabbeinu, que sa Neshama provient de là-bas, et que sa Neshama est présente là-bas, lorsqu'il veut comprendre, il doit s'expatrier, il doit aller dans le Olam HaBriya, dans le monde juste en dessous, et là-bas, il peut commencer à comprendre. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer par ici? Il veut nous montrer qu'en vérité, on ne comprend rien du tout des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Rien. Ni de la bonté, ni de la rigueur. Ni l'un, ni l'autre. La droite et la gauche, on ne comprend rien du tout. Et là, il a dit, t'as plutôt le bolam à Bria, même Moshe Rabbeinu, on comprend seulement lorsqu'il s'habille dans le monde de Bria. Et à Avgamzot, l'obichité mitzvot d'Elo Chesed Gvura, il a dit, t'as plutôt le mitzvot d'El Matamehen, le Matriga, chez mitzvot Nitzach Od Yisod, comme je crois que tout. C'est très compliqué, ça. C'est que même Moshe Rabbeinu, même lorsqu'il descend dans le monde de Bria, il ne pourra pas comprendre. Il ne pourra pas capter Akadosh Baruch Hu, la bonté et la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, par la bonté et la rigueur elle-même. Il va les capter seulement par la façon comment ils vont s'habiller dans les phénomènes en dessous, comme la rigueur, la victoire, l'humilité et le fondement, comme je dis, Moshe Rabbeinu. Bon, je vais expliquer ce qu'il va dire ici. Quand tu veux savoir, est-ce que quelqu'un est gentil, comment tu fais?
Je le teste.
Comment tu le testes? Qu'est-ce que tu vas tester?
L'énerver pour voir.
Ah, attention, très bien, on touche là. Très
il,
bien.
Peut, il peut être nerveux et gentil.
Alors, c'est un très bon point ce qu'il dit. Je veux savoir est-ce que quelqu'un est gentil. J'ai plusieurs façons. Première façon, c'est de voir tout simplement est-ce qu'il est gentil. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il donne?
Est-ce qu'il est généreux?
Ça, c'est chesed. Maintenant, si je n'arrive pas à voir est-ce qu'il est généreux, il y a les dérivés de chesed. Chesed, gvura, tiferet, netzach. Tu sais, par exemple, je vais essayer de voir jusqu'où il va être capable de se gagner. Jusqu'où il va être capable dans un projet de se connaître et de se battre pour un projet. Bon, c'est pas mal. Ça veut dire que ça reste toujours la bonté. Mais je ne vais pas voir la générosité de la personne, je vais voir jusqu'où il est capable d'aller pour se battre pour quelque chose. Et ça va être un élément qui va être un indicateur pour me dire jusqu'où il va aller. Je vais donner un autre exemple. J'ai envie de savoir si quelqu'un est rigoureux. Comment je peux savoir s'il est rigoureux? D'accord? C'est quoi? Parce que c'est quoi la rigueur? La tendance de la rigueur, c'est de se retenir. D'accord? De contracter, de retenir. Comment je vais savoir? Alors, soit je peux le voir directement, je vois dans la vie comment il est rigoureux. Ou soit je peux le voir par d'autres phénomènes. Par exemple, l'humilité est une variante de la rigueur. Parce que c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est je m'efface. Et la rigueur, c'est aussi je donne moins. Donc c'est le même phénomène. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que parfois, dans la vie, on n'arrive pas à capter une chose directement, mais on va la capter par une trace qu'elle a laissée. Vous me suivez? On peut donner plein d'exemples. Voilà. Imaginez que cette table, elle est posée, par exemple, sur le sol. Et que j'ai envie de définir, de me dire combien elle pèse cette table. Est-ce qu'elle est en titane? Est-ce qu'elle pèse 10 kilos? Est-ce qu'elle pèse 20 kilos? Est-ce qu'elle pèse 30 kilos? Je sais pas combien pèse cette table. Imaginons que le sol en dessous, c'est de la terre. Et j'ai envie de savoir combien pèse cette table. Qu'est-ce que je veux faire?
Des capteurs.
Non, j'ai pas de capteur. Qu'est-ce que je veux faire?
Lève le truc, tu vois, pour comment.
Non, je peux pas la lever. Elle est très lourde. Je peux pas la lever. Je sais pas combien elle pèse. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais chercher un autre phénomène. Je vais essayer de pousser la table. Et je vais voir la trace qu'elle va faire par terre. Et selon la trace qu'elle va faire par terre, je vais essayer de m'imaginer quel poids à la table. Mmh. Là, tu me dis, mais pourquoi tu vas voir la trace qu'elle a fait par terre pour voir combien elle pèse la table? Parce qu'il y a des fois des choses que j'arrive pas à voir directement, je vais aller voir indirectement.
Par l'impact.
D'accord? C'est beaucoup de choses dans la vie, c'est comme ça. D'accord? Tu veux savoir ce que ta femme pense de quelque chose. Elle ne te l'a pas dit. Elle ne te dit pas.
Par déduction.
Hein? Par déduction. Tu veux savoir ce que ton fils pense de quelque chose, ta fille pense de quelque chose. Tu veux savoir ce que quelqu'un pense de quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comprendre par déduction. Tu vas dire, ça, il m'a pas dit ce qu'il en pense, mais j'ai vu que dans ce sujet, il a dit ça et ça. Donc je vais faire par déduction.
Analogie.
Par analogie. Ou bien même des fois, on peut même procéder carrément par élimination. Ça veut dire, je dis, c'est pas ça, donc c'est ça. Maintenant, dites-vous que de la même façon, pourquoi je vous parle de tout ça? De la même façon, Moshe Rabbeinu, il a envie de capter Hachem. Tu dis, mais attends, Moshe Rabbeinu, il est là, il est dans le fief, Moshe Rabbeinu, il est dedans. Il dit non. Même Moshe Rabbeinu, d'abord dans Hatzilut, il capte rien. Sa Neshama, elle vient de là-bas, mais dès qu'il veut comprendre, il est obligé de s'expatrier. Où il va s'expatrier? Dans le monde d'en dessous. Maintenant, même dans le monde d'en dessous, Chochma Binada, tu oublies. D'accord? Chesed Gvura, tu oublies. Il comprend pas, même dans le monde d'en dessous, il comprend pas la bonté et la rigueur d'Hachem. Comment il va comprendre? Il va comprendre par l'expression de la bonté. Par exemple, il va voir comment Akadosh Baruch Hu, il va défendre certains projets ou comment Akadosh Baruch Hu va s'effacer par rapport à certaines choses. Il va dire, ah, là j'ai aperçu la bonté d'Hachem. Là j'ai aperçu la rigueur d'Hachem. Et là, Moshe Rabbeinu, il a capté. Ce qu'il veut te dire par là, il veut te dire, il faut bien comprendre qu'on ne comprend rien du tout au midat d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, avec tout ça, n'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, il est gentil. Il dit bien que tu comprends rien du tout à moi. Ni comment je me dévoile, ni comment je me cache. Même quand je me cache, t'as rien compris. C'est vraiment comme un magicien, tu vois. Il te montre quelque chose, il le cache, t'as vu. T'as compris ni comment il l'a montré, ni comment il l'a caché. T'as rien vu. T'as rien compris. Mais Hachem, comme il est gentil, de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie un
miracle.
Un miracle. D'accord? Parce que, tu dis, sache que sans le miracle, tu n'as rien compris. Même si tu crois que tu m'as vu au travers de mon voile, tu vois rien du tout. T'as rien compris. Et même Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu. Il voit un peu mieux que toi, mais il ne voit pas. Parce que personne ne peut voir. D'ailleurs, on le sait. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux voir ta face. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Hachem?
Tu verras
ma face.
Et il lui a dit, tu verras pas ma face. Tu verras mon dos. C'est quoi le dos? C'est-à-dire qu'on veut voir quelqu'un de dos. C'est-à-dire qu'on veut voir quelqu'un de dos. Quand je te vois de face, je sais ce que tu penses. Je sais si tu es joyeux. Enfin, à moins que tu aies appris à cacher tes sentiments. À montrer le contraire de ce que tu penses. Mais normalement, quelqu'un qui est content, tu le vois sur son visage. Quelqu'un qui est crispé, tu le vois sur son visage. Maintenant, imagine-toi que je te dis, tu vois pas son visage, tu le vois de dos. Est-ce que de dos, tu arrives à voir quelqu'un s'il est heureux ou pas?
Non.
C'est très difficile. D'accord?
Non.
C'est extrêmement. C'est, alors, moi, je sais pas le faire. Pourquoi je sais pas le faire? Parce que j'ai pas l'habitude de regarder les gens de dos. Mais peut-être que, imagine-toi maintenant qu'il y a une personne que tu peux voir que de dos. Alors tu vas apprendre à capter certaines choses. Tu vois, par exemple, je remarquais que, par exemple, peut-être son dos, il est un peu plus courbé ou un peu moins courbé. Ou je remarquais qu'il bouge un peu moins, qu'il bouge un peu plus, etc. Mais ce sont des choses que si tu pouvais voir son visage, en une fraction de seconde, tu aurais capté. C'est ça la réponse à Hachem Shamosh Rabbeinu. Hachem Shamosh, il dit, je veux te voir, je veux voir ta face, je veux comprendre. Hachem, il dit, ma face, tu verras pas, tu verras mon dos. C'est vraiment mon dos. Hachem, il a un dos, Hachem, il a une face. C'est une image. Pour dire, tu ne verras pas mon expression directe. Tu ne verras que mon expression indirecte. Dans le Chassidout, on amène souvent l'exemple du miroir. Et il y a deux catégories de miroirs. Il y a un miroir qui te permet de voir des choses. Et il y a un miroir qui est sale. Dans lequel tu vois pas grand chose. Moshe Rabbeinu, il a un miroir qui est propre. Donc, par le miroir, il voit pas mal. Les autres, ils voient pas grand chose. Ils ont un miroir, mais qui est très très sale, donc du coup, ils regardent le miroir, ils voient rien du tout. Ils voient qu'il y a un truc derrière, mais ils voient rien du tout. Tu sais, c'est comme ils font dans les parcs, là. T'as un miroir qui est très flou comme ça, tu vois rien. Tu vois rien du tout. Moshe Rabbeinu, il a un miroir qui voit clair. Ok? Il voit clair. Mais qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit directement Akadosh Baruch Hu? Non. Il voit un dérivé d'Akadosh Baruch Hu, Kaviyachol. Il voit un élément indirect. C'est-à-dire que puisqu'Hachem a fait ça, donc ça a fait ça, et ça je l'ai vu. Donc puisque j'ai fait ça, donc j'ai vu qu'il y avait ça. D'accord?
Est-ce qu'il a décrit ce qu'il a vu?
Oui, bien sûr, il a décrit, mais il faut comprendre. Il a vu la présence d'Hachem.
Mais est-ce que c'est pas assez physique? C'est...
Bien sûr, je vous donne un exemple. Il faut bien expliquer ça, c'est bien que vous posez la question. C'est écrit Mibsari Rezeloka, qu'au travers de ma chair, je vois Hachem. Au travers de ma chair là, je vois Hachem. Comment je vois ma chair au travers de ma chair? C'est très simple. Regardez, là j'ai un doigt qui bouge. Pourquoi il bouge le doigt? Comment il bouge?
Le cerveau voit un
doigt. Deux secondes. Mais moi, qu'est-ce que je vois avec mes yeux? Je vois une chair qui bouge. Maintenant, je vois pas l'énergie qui est derrière. Je suis incapable de voir, de quantifier, de capter l'énergie. On est d'accord? On n'est pas capable de. Est-ce qu'on est capable de stocker cette énergie par exemple?
Non,
est-ce qu'on est capable de la stocker, de la quantifier, de la définir? Incapable. Personne ne peut la définir. Mais pourtant, même si je ne vois pas l'énergie qui est là, mais j'observe cette énergie au travers du résultat. C'est que s'il y a un doigt qui bouge, c'est qu'il y a une énergie derrière. Donc, je déduis la présence d'une énergie par un phénomène que je peux voir. Donc, en d'autres termes, grâce au phénomène que je peux voir, je déduis un autre phénomène que je ne peux pas voir. Vous suivez? C'est-à-dire, je ne vois pas l'énergie qui est dans ma main. Mais, comme je vois que ma main elle bouge, donc je comprends qu'il y a une énergie que je ne vois pas, mais j'en déduis qu'il y a certainement une énergie derrière. On est d'accord? Bah, dites-vous que c'est la même chose. De ma chair, je vois Hachem. Quand j'ai compris ce concept, j'ai compris la même chose par rapport au monde. Quand t'as un monde qui tourne, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui le fait tourner derrière ce monde. Maintenant, moi je ne le vois pas. C'est vrai que je ne le vois pas. Mais indirectement, je le vois. Parce que puisque je vois le résultat de ce qu'il fait et que je sais que ce résultat ne peut pas se faire tout seul, donc forcément que derrière ce résultat, il y a un maître qui a fait ce résultat. Vous êtes d'accord? Donc c'est pour répondre à la question. Est-ce que M. Rabbeinu nous a raconté ce qu'il a vu? Encore une fois, moi-même, je peux vous raconter ce que je vois. Si je vois ma main qui bouge, c'est Dieu qui est là. Mais, encore une fois, je n'ai pas la possibilité de le voir clairement avec mes yeux. Ça veut dire, je vais rentrer chez moi à la maison et je vais dire... Ta femme va dire, qu'est-ce que t'as appris ce soir? Je vais dire, Mandy nous a appris ce soir que ma main qui bouge, c'est un miracle. Elle va dire, arrête de venir à secours. Il y a des millions de personnes qui ont les mains, des milliards de personnes qui ont la main qui bouge, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle a raison. Parce que c'est vrai que je sais qu'il y a une énergie derrière, mais je me suis tellement habitué que ça ne veut plus rien dire pour moi. La première fois que ton enfant, il a commencé à marcher, tu dis, ah, c'est un miracle. Mais après, c'est fini. Après, tu arrêtes de courir parce que c'est un habitué, c'est fini. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'Akadosh Baruch Hu, pour ne pas que tu perdes cette sensibilité, de temps en temps, il t'envoie des miracles.
Mais il a vu la silhouette d'un homme.
Mais si vous voulez, le miracle ne fait que... Non, mais je reprends, j'ai deux secondes. Le miracle ne fait que confirmer ce que tu vois tout le temps. C'est tout. C'est-à-dire que le miracle, j'ai même pas d'exemple physique, en vérité. L'exemple physique devrait être, par exemple, que ma main, elle bouge, tu vois, je vois pas. Et une fois tous les 10 ans, par exemple, Dieu me montre l'énergie qu'il y a dans ma main. Une fois tous les 10 ans. Comme ça, je vois, après, il dit, c'est bon, moment-là que t'as vu, maintenant, on recache. C'est un peu ça ce qu'il fait, quand je crois avec nous. C'est-à-dire, il se cache, mais de temps en temps, il nous montre qu'il est là. Le miracle. D'accord? Maintenant, comment Moshe Rabbeinu l'a vu à Kadosh Baruch Hu? C'est une très bonne question, je sais pas. Vous savez, c'est toute la question.
Parce qu'on dit qu'il l'a vu avec le tifilin au dos et le talit.
C'est une très grande question. Par exemple, dans la parasha la semaine dernière, on dit que, Vayera Elav Hashem. Dieu est apparu à Avraham. D'accord ? Comment il lui est apparu ? Avraham était réveillé, il dormait. Les anges sont vraiment venus ou c'était un rêve ? C'est une question sérieuse que je vous pose.
Bah, bien sûr. C'est...
Parce que si je me dis que Dieu lui a parlé, est-ce que l'expression de Dieu qui te parle, c'est quelque chose de concret ? Donc dans ce cas-là, la suite du verset sera aussi concrète. Que Dieu me parle concrètement. Donc je lève mes yeux et je vois les anges, c'est aussi concret. Ou bien on va dire que c'est un songe. Ça veut dire que c'est un vrai songe, mais c'est un songe. Ça veut dire que je me vois Dieu parler et toujours dans mon image, je vois des hommes venir, mais qui en vérité sont jamais venus. Alors comment s'est passé ?
On n'a pas la réponse à cette question ?
Mais si, ça peut être que dans
il a paru.
Ça peut être à travers le
son. Non, mais là, je trouve une question, une vraie question. Les anges. Est-ce que les anges sont venus ou sont pas venus ?
Les anges, oui, on a dit que c'était des hommes.
Non, mais encore une fois.
Habillé en homme.
Mais peut-être c'était dans le.
Il faut comprendre.
Mais peut-être c'était encore une fois tout ça dans le songe d'Abraham. Parce que n'oublions pas que le début de la parachute, ça va ira. Ça veut dire qu'on te dit, Dieu lui est apparu à Abraham, etc. Et Abraham a levé ses yeux et il a vu. Donc ça veut dire que c'est dans le cadre d'une vision divine. Oui. Maintenant, si tu dis que la vision divine est toujours abstraite, ça veut dire que la présence des anges est aussi abstraite.
Mais c'est le mot déjà « ah, il est apparu ».
C'est embrouillant, hein.
Ça peut être...
Non, mais c'est-à-dire que... Ouais, mais nous, on a posé la question pour Hachem, pas pour les anges.
Mais oui, mais ça va de pair. Parce que tu dis « Dieu lui est apparu et il a levé ses yeux et il a vu ».
Non, mais pour les anges, des fois, on les appelle à la Hachem, des fois, on les appelle à la
T'as entendu ce que je viens de dire ? Je répète la phrase.
Oui.
Dieu lui est apparu, donc s'il est apparu, c'est-à-dire qu'il a vu avec quoi ?
Avec ses yeux,
et il a levé ses yeux et il a vu. Est-ce que c'est les mêmes yeux qui l'ont permis de voir Dieu et qui l'ont permis de voir les anges ?
On ne va pas comparer Dieu aux anges.
Alors, de deux choses l'une. Ou tu me dis que les deux c'est un songe, ou tu me dis que les deux c'est réel.
Ça n'a rien à voir.
Mais vouloir faire, de dire, Dieu il l'a vu avec son imagination et les anges ils l'ont vu avec ses yeux, ça c'est compliqué. Alors, c'est un grand débat. Par exemple, Maïmonide dans le guide des égarés.
Maïmonide
dans le guide des égarés, il dit que les anges c'était un songe.
Mais c'est marqué à la Chine, non
mais tout ça,
oui, mais c'est un songe.
Si on les appelle à un moment donné, mais
c'est dans la vision divine. Dans sa vision, il se voit. C'est comme un rêve. Dans un rêve, ça peut être réel. C'est réel. C'est authentique.
Un scénario.
Mais c'est un scénario, voilà. C'est un film. C'est un film.
Fabrique un truc.
D'après bon, maintenant, Maïmonide lui-même, il est en discussion avec ça dans un autre endroit.
Ce que je pose, c'est comment finalement il communique.
C'est la grande question qu'on se pose. La grande question, c'est ma mâche liée à notre cours. C'est lié à notre cours. On te dit la chose suivante. Est-ce que Hachem se manifeste aux êtres humains, oui ou non ?
On veut savoir de la
voilà.
Surtout, on sait qu'il se manifeste.
Tu me dis, Dieu est apparu à Abraham. C'est quoi, il est apparu à Abraham ?
De miracle.
Abraham, il a vu quoi ? Il a vu quoi, Abraham ? Il a vu quoi ? Il a vu de la lumière ? Il a vu jaune, il a vu rouge, il a vu bleu, il a vu vert. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu quoi ?
Est-ce qu'on a la réponse ?
Il a senti, mais le problème c'est que c'est pas écrit. Il a senti, c'est écrit, il a vu.
Non,
mais c'est une question qu'il faut poser. C'est écrit, il a vu. Donc s'il l'a vu, s'il lui est apparu, c'est qu'il l'a vu. Donc s'il l'a vu, il l'a vu avec ses yeux. Est-ce qu'on peut voir avec ses yeux ?
Ça peut être physique, comme ça peut être dans le.
Alors encore une fois, c'est les questions qui resteront toujours ambiguës. Parce qu'il y a des réponses par-ci, il y a des réponses par-là. Frère le Maïmonide, guide des égarés, il te dira tout ça, c'était un rêve. Un rêve sérieux, mais c'est un rêve.
Mais pourquoi nous on a dû.
Tu verras d'autres commentaires qui diront non, tout ça était réel, authentique, les anges étaient vrais, et la présence divine était authentique, était réelle, il l'a senti réellement, comme je sens la présence d'une personne. Tu sens la présence d'un être humain à côté de toi, il l'a senti Hachem comme ça. Mais ce qui est clair, c'est que tout le monde se pose la même question. C'est à quel point Dieu peut-il se manifester sur Terre ? Parce qu'on revient à la même question. Dès que Dieu se manifeste sur Terre, les êtres humains n'ont plus lieu d'être. Ils explosent.
Moi, c'est pas ça la question que je me pose.
Voilà ce qui est passé au Mont Sinaï.
La question, c'est comment je communique avec Dieu.
Ça, c'est rien, c'est un détail, ça.
Si, c'est ça.
Non, ça, c'est pas. Non, tu lui parles.
De là à droite ou à gauche, j'ai besoin de savoir.
Ça, tu lui parles.
Comment je communique, comment je tiens une réponse.
Ça, c'est.
Oui, mais comment j'ai la réponse ? Je lui parle.
Ah, c'est autre chose.
Si je communique, c'est que j'attends une réponse.
Non.
Et j'attends qu'il y ait un échange.
Pas du tout. C'est pas que j'attends une réponse.
Je parle, j'envoie des prières. Comment j'ai une réponse ?
C'est une bonne question. Donc,
comment je dois me diriger dans ce monde ?
Donc on revient à la même question. Comment Dieu se manifeste à l'être humain ?
Voilà.
Est-ce qu'il se manifeste ? Est-ce que Dieu peut-il se manifester de façon tangible ? Oui ou non ? C'est une question qui dérange tout le monde depuis la paracha Bereshit. Quand on dit que Dieu a parlé à Adam, quand on te parle du Gan Eden, du jardin d'Éden, c'est quoi le jardin d'Éden ? C'est virtuel ou c'est authentique ? Il y avait un jardin, il y avait des arbres, et le fruit c'était une pomme, une pomme, peu importe le raisin, et c'est un raisin qui se mangeait, ou c'est quoi ? C'est virtuel tout ça ou c'est authentique ou c'est réel ? C'est les questions sérieuses que je vous pose. C'est pas des blagues. Parce que le problème, c'est que quand tu as une discussion entre êtres humains, Dans ce cas-là, la discussion est réelle. La discussion est physique. Mais quand tu discutes avec Dieu, tu comprends, la discussion n'a plus la même forme. Dieu, il te parle. Dieu, il te parle d'un arbre. C'est quoi cet arbre? C'est des questions très complexes. Ça veut dire que tout le monde se pose toujours la question depuis Bereshit, à quel point Dieu peut-il se manifester à l'être humain?
Est-ce qu'il passe par un ange ou pas?
Est-ce qu'il passe par un ange? Est-ce que l'homme le voit? Est-ce que c'est l'autosuggestion? Est-ce qu'il le voit vraiment? Est-ce qu'il le voit pas? C'est des vraies questions. Tout le monde dit que c'est... Personne dit que c'est faux. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai.
Il y a plusieurs manières. Plusieurs
mais à quel point tu le sens? À quel point tu le sens? Et ça, c'est la réponse. C'est la réponse de l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken te répond, basé sur le Zohar, il te dit, il faut que tu comprennes que dans la conduite normale des choses, Dieu ne se montre pas à personne.
Non, ce monde.
D'accord? Dans ce monde. Oui. Dieu ne se montre pas à personne. Cependant, le même Dieu, par le biais des tzadikim, de temps à autre, et par le biais des miracles et des merveilles, il se manifeste.
Et des signes, voilà.
Il se manifeste. Mais, encore une fois, tu dois comprendre que dans la méthode normale, l'approche normale des choses, Dieu ne se montre pas. C'est comme ça. C'est-à-dire, pourquoi je vois pas Dieu? Ça, c'est un... Aujourd'hui c'est Rav Maheshvan. Rav Maheshvan, c'est le jour de l'anniversaire de Rabbi Rachab, d'accord? Et sur ça, on raconte une histoire. On raconte une histoire que lorsque le Rabbi Rachab avait 4 ou 5 ans, il est parti poser la question à son grand-père. D'accord? Je crois que c'est son grand-père, les souris. Son grand-père, le Rabbi Tzemar Tzedek. Il a posé la question, il avait appris à l'école que Dieu est apparu à Abraham. Il a appris la paracha la semaine dernière. Il a posé la question à son grand-père. Il a dit, comment ça se fait que Dieu est apparu à Abraham et qu'il n'apparaît pas à moi? Il a posé la question à 4 ou 5 ans. Alors, il lui a répondu. Son grand-père, le Rabbi Tzemar Tzedek, lui a répondu. Il lui a dit, lorsqu'un juif, un tzaddik, décide de faire la brit mila, de se circoncire à l'âge de 99 ans, il mérite qu'Hachem apparaît à lui. Ça, c'est l'histoire.
C'est un début de réponse.
Maintenant, il faut comprendre deux choses. D'abord, que veut dire la question? Que veut dire la réponse? Et pourquoi on nous a raconté cette histoire? Parce que si on nous a raconté cette histoire, c'est qu'il y a un message pour nous. Déjà, le rabbi, il apprend un message de chaque détail de cette histoire. Premièrement, de la question dans l'histoire. Ok? T'entends, Serge?
Oui.
Une question?
Hein?
Une question?
Non, pas du tout.
Déjà, de la question, on apprend un message. Pourquoi on te raconte la question d'un enfant? La question d'un enfant qui pose la question, qui dit pourquoi Hachem est apparu à Avraham à l'âge de 99 ans, il n'est pas apparu à moi. De là, on comprend que si on nous raconte cette histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'éduquer nos enfants à être capables de poser ce genre de questions à 4 ou 5 ans. Avant, ces histoires ne nous étaient pas racontées. Elles étaient racontées qu'aux tzadikim. Dans les familles de tzadikim, des questions comme ça arrivaient. Dans les autres familles, ça n'arrivait pas. C'est pour ça qu'on ne nous racontait pas ce genre d'histoire. Dit le rabbi, si Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le père de Rabbi Rachab, nous a raconté publiquement cette histoire, c'est parce qu'on veut nous apprendre qu'aujourd'hui, on s'approche de Mashiach et on peut arriver à éduquer nos enfants, faire en sorte qu'un enfant, il peut rentrer du Gan à 4 ou 5 ans et te poser la question, papa, pourquoi Hachem s'est révélé à Avraham et s'est pas révélé à moi? J'ai pas envie de dire que si on n'est pas arrivé à ça, on a arrêté notre éducation, mais en tout cas, on peut arriver à ça. Ça veut dire qu'on peut viser très très haut aujourd'hui notre éducation. Donc, vous voyez, je commence à répondre à la question, là, à votre question, M. Benita. De la réponse à ce qu'on apprend, lorsqu'un juif à l'âge de 99 ans, c'est quoi 99 ans? C'est un juif qui est construit. Il est construit, il vient pas de nulle part. Et là, à un moment, on lui demande de faire quelque chose qui est très douloureux, qui est très compliqué, et sur lequel il aurait pu dire, je dis oui à tout, mais pas à ça. On n'en a pas voulu. Parce qu'il a tellement fait pour Hachem que j'ai dit, bon, ok, tu veux pas, ok, pas de problème. Tu veux pas. Il aurait pu trouver une technique de dire que c'est une recommandation que Dieu lui a dit. Parce que, parce que là-bas, c'est un peu, il aurait pu dire que c'est une recommandation, que c'est pas un ordre, etc. Et pourtant, Abraham, il l'a fait. Alors, quand tu fais des efforts et que tu te dépasses, là, Hachem se révèle à toi. Donc ça, c'est pour répondre à notre question. Les gens posent la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la révélation divine? Est-ce que moi, aujourd'hui, en 5780, 2019, d'accord, est-ce que je peux avoir maintenant la présence de Kadosh Baruch Hu? Est-ce que je peux ressentir?
De dire que oui.
Oui. D'une certaine façon, oui. Aujourd'hui, avec la chassidut, avec la profondeur de la Torah, je peux capter certaines choses. Des choses que j'aurais jamais captées avant.
Alors, si on a fait maintenant, des efforts et que...
Ça veut dire que tu n'as pas fait assez d'efforts.
La question, elle est... Pourquoi, à ce moment-là, s'il fait des miracles, Dieu nous enlève des mérites quand même.
Est-ce que ça t'arrive des fois dans la... Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas un miracle ça. Est-ce que ça t'arrive des fois dans la vie que tu avances dans la Torah et dans les mitzvot et que dans certains domaines, tu sens une lumière, tu sens que t'es éclairé. Tu sens que... Tu sens qu'il y a une énergie qui est avec toi. Tu sens que t'es porté, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens quelque chose. Et c'est pas de l'autosuggestion, c'est quelque chose de sérieux. Ça, c'est des choses qui n'arrivaient pas avant. Ça n'arrivait pas. Avant, les tzadikim connaissaient ça, les autres, ils connaissaient que, ah, la ha, on fait ci, on fait pas ça, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, plus on s'approche de Mashiach, et plus on peut avoir cette sensibilité de capter ces choses-là. Et maintenant, il faut pas détruire cette sensibilité. Il faut la préserver. Tu comprends? Tu sors d'un cours de Tania, t'as un peu cette sensibilité. Tu vas rentrer à la maison, tu vas voir un film, tu vas tout jeter à la poubelle.
Un film,
pas de télé.
D'accord. Ah, bah oui. Tu comprends? Ça veut dire, tu vas rentrer à la maison, tu vas voir un film, on va plus parler d'HM, on va parler de Brad Pitt, donc c'est fini, c'est une autre personne. Je sais pas si c'est toujours un... C'est une autre personne. C'est pas le même chose. Hein, quoi?
Ah bon?
Hein? T'es déstabilisé.
On rediffuse.
T'as une sensibilité. Faut pas la perdre.
Ah ouais, c'est très dur. Qu'est-ce
que pour répondre à votre question?
C'est très dur de la garder.
On peut capter des choses, oui. Pour répondre à la question, oui, on peut capter. On peut nous-mêmes s'éduquer comme ça. Et on peut éduquer nos enfants comme ça. Et c'est pour ça qu'on raconte l'histoire.
Quel chapitre?
Autrement dit, je te dis.
Ce matin, il a fait un cours spécial.
De dimension. À un moment donné, on change de dimension. Ça veut dire, on est dans une dimension. Et en contact de la Torah, on passe dans une autre dimension.
Oui.
Et moi, je l'ai vécu ici, quand je monte au CFR. Quelquefois, je suis monté, et tout à coup, j'ai eu un ressenti de n'être plus dans la synagogue, mais dans un autre lieu. Et c'est quelque chose qui m'est personnel.
Alors, d'où ça vient, ça?
Mais ça, c'est quelque chose qui est...
Ça, c'est la question.
C'est une question qui est...
Cet autre lieu.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais ça m'est arrivé souvent.
Il est à 1000 lieues. Il t'est dépassé.
Mais merde.
Il a encore des séquelles.
C'est pas quand je porte, par exemple.
C'était il y a 2 ans, ça, le soir.
Quand il s'est ouvert et que celui, l'officiant, lit, je me sens tellement imprégné tout à coup. Je suis plus dans la synagogue. Je suis complètement
en immersion avec le.
Je suis plus là du tout.
Ça se soigne.
Et c'est tout. Bah oui, ça se soigne. Il faut faire un chèque.
Petit, gros, moyen.
Non, mais c'est ça. C'est des dimensions.
Oui, fais un chèque.
L'être.
Mais Joseph, je vais faire une critique.
Le chèque, ça.
Je vais vous faire une critique, Joseph.
Ça fait redescendre.
Quand on est impressionné par quelque chose, c'est qu'on le fréquente pas trop.
Pardon.
Quand on est impressionné par quelque chose,
il n'est pas monté assez.
C'est qu'on le fréquente pas assez.
Mais je vais. Non, mais.
T'as entendu le.
Oui, je suis là.
T'as compris là?
D'accord.
Non, mais... sûr qu'il a compris.
Mais d'accord, j'ai
entendu. Non, mais c'est pas ici, ça rentre pas.
Mais attends,
ça veut dire que. Ça veut dire que. Non, Joseph.
Parce qu'il y a un recto.
Joseph,
j'ai toujours les deux.
Je vais expliquer la différence. Si vous racontez ça il y a 2 ans, vous dites, Mandy, j'ai mis les filets la première fois, j'ai eu la lumière. Mandy, je montais la Torah, j'ai eu la lumière. La deuxième fois, j'ai eu la lumière. Je lui dis, colle à cavole, je t'embrasse les pieds. Mais quand tu me dis ça, 2 ans après que tu prends le travail, je dis, non, il y a un problème, c'est que tu fréquentes pas assez le travail.
Non, parce qu'à chaque fois, je suis...
Ça, c'est pas possible.
Je veux pas donner... Bon, j'ai pas envie de donner... La première réponse, c'est pas forcément la bonne. Ce que je vais te dire.
Non, parce qu'on s'habitue. En tout cas, j'espère que c'est pas aussi fort que la première fois.
Très bien.
Parce que sinon, ça veut dire...
La réponse, c'est que... À chaque fois, c'est pas de fréquenter ou pas. C'est qu'à chaque fois qu'il y a ce contact-là, à chaque fois qu'il se passe quelque chose,
Votre neshama doit avoir une grande sensibilité.
Il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas l'expliquer. Ça m'est arrivé.
On va prendre un respect.
Ou alors je suis triste, ou je me mets à penser à ma famille, ou à des morts dans la famille, ou à tout ça. Mais tout à coup, je suis embarqué dans un truc. C'est ingérable.
C'est pour ça que quand tu
sors, c'est gérable en même temps, c'est ingérable. Je suis comme dans un entre-deux, tu vois.
C'est parce que tu es en même temps, il s'appelle Yosef.
C'est cet entre-deux, justement, qui est un peu compliqué à comprendre. C'est-à-dire que mon être à moi, mon être, eh bien, il se confond tout à coup avec l'idée de l'être de la Torah.
Comment vous expliquez ça?
Ah, mais ça, c'est.
Ah, je croyais que Tania, c'était compliqué ce soir, mais là, tu
vois. Ah, non, parce que. Quand on parle d'être.
Bon, résumons, allez.
D'être à être.
Résumons, bien, parce que c'est l'heure.
On occulte complètement ce qui est okay. De l'objet.
Résumons ce qu'on a appris aujourd'hui.
C'est le sujet qui compte.
On dit qu'on rentre dans un autre monde.
D'accord.
On rentre dans un livre de Torah.
Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui?
Morale.
Même si on a touché beaucoup de notions complexes, il faut toujours sortir avec quelque chose de concret. Joseph, on va juste conclure.
Pour moi, j'ai vécu un miracle.
C'est une vision normale, tout à fait normale, Joseph.
Très vrai. Même si on passe par Charikut Emunah, c'est compliqué.
Moi, je banalise pas, tu vois.
Joseph.
Pour moi, c'est un truc qui est pas normal.
C'est parce que comme il a dit, Mandy, tu viens pas.
Joseph, on va mettre pause. Pause de seconde. Même si on a passé par un cours avec beaucoup de notions complexes, c'est pas simple. Chaque Amuna, c'est compliqué. Il faut toujours essayer de se ressentir avec quelque chose de concret. Je pense que l'idée concrète avec laquelle on est sorti aujourd'hui, c'est l'idée de comprendre que d'abord chez Hachem, il n'y a pas de raté. Qu'Hachem, il a un plan. Et que dans ce plan, il y a la bonté suivie de la rigueur, suivie de la miséricorde. Et surtout, la partie principale de notre cours, on a expliqué quel est le rôle de la miséricorde. On a expliqué que la miséricorde, ce sont les miracles. Et pourquoi Hachem fait des miracles? Pas parce qu'il a envie de se faire des kiffs, pas parce qu'il n'a pas le choix, pas parce qu'il a envie de te sortir d'une situation. Hachem fait des miracles parce qu'il a envie de se montrer. Il n'a pas envie que tu crois qu'il n'est pas là, parce que toi, concrètement, tu ne le vois pas. Et on a expliqué que de base, normalement, personne ne pourrait voir Hachem. Même Moshe Rabbeinu ne peut pas capter Hachem. Seulement, dans le cadre de Rachamim, de la miséricorde que Kadosh Baruch Hu a fait, Kadosh Baruch Hu a dit, de temps en temps, je vous enverrai des miracles, ou bien je me montrerai de façon interposée. Ça veut dire pas de façon indirecte. Mais plus que ça, il n'y aura pas. Plus que ça, il n'y a pas. C'est en haut après au Gan Eden. Ici, pas sur terre, il n'y a pas plus que ça. Il ne peut pas avoir plus que ça. Et c'est une volonté d'Hachem qu'il y ait toujours Chesed qui est occulté par Gevura, mais que de temps en temps, on envoie du Rachamim pour rappeler aux gens que Kadosh Baruch Hu est là. Maintenant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Peut-être je vais voir avec mon frère s'il peut faire un cours pour remplacer. Bon, pour l'instant, il n'y a pas cours. Je vous tiens au courant. La semaine prochaine, pour l'instant, il n'y a pas cours. D'accord? Je ne suis pas là. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la semaine prochaine, on va expliquer qu'est-ce qui se passe au Gan Eden. Parce que, j'ai compris. Là, on a bien compris ce que nous a dit dans ce cours. Que ici, bas sur Terre, on capte rien. Et que de temps en temps, Hachem nous envoie des petits signaux par-ci, par-là, pour nous montrer qu'il est là. Mais en vérité, on capte pas grand-chose. Bon. Maintenant, après 120 ans, qu'est-ce qui se passe? En arrivant au Gan Eden. Est-ce que là-bas, on capte? Et combien on capte? Et les tzadikim? Mais Moshe Rabbeinu, il capte quoi maintenant? Parce qu'on a toujours le même problème. À combien tu peux voir un Kadosh Baruch Hu? Il faut bien que tu se contractes. Parce que s'il ne contracte pas, même le Gan Eden brûle. Tout brûle. Qu'est-ce qu'on capte de plus au Gan Eden? Alors là, sur ça, ça va être très profond. On va rentrer encore une fois dans les lettres de la Torah. On va comparer la Torah à la nourriture et les mitzvot aux vêtements. Enfin, tout un trait dans lequel on va partir. Très intéressant. Sur le Zohar. Hein, on est du Zohar en intraveineuse. Hein. Ce chapitre-là, c'est du Zohar à fond. D'accord? Mais qui t'explique qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Gan Eden? Comme ça, je vous laisse un peu digérer, réfléchir à tout ça. En tout cas, entre-temps, cherchez les miracles. Soyez attentifs autour de vous. Quand vous avez des miracles, gardez-les, méditez-y, pensez-y, faites quelque chose avec pour vous rappeler que c'est un signe que Kadosh Baruch Hu t'a envoyé pour te montrer qu'il était présent, qu'il était avec toi et qu'il ne t'a jamais abandonné, qu'il ne t'abandonnera jamais et qu'il est toujours avec toi. Voilà, c'est ça qui est pour aujourd'hui. Si tu veux.
Tout le monde reste là si on fait la rite.
Qui a déjà fait vite?
Qui n'a pas fait vite? Qui n'a pas fait vite, levez la main. C'est bon, c'est
bon. On est plus que 6. Si je veux bien rester.
Oui, j'ai pas envie de rester.
On est heureux, tu